Au fond, l'enjeu pour moi ici, c'est de vous présenter la façon dont l'anthropologie, et particulièrement l'anthropologie de la santé, peut se saisir de la question des apprentissages, mais les apprentissages, entre guillemets, dans la vraie vie, c'est-à-dire dans la société globale, en dehors des lieux attendus de l'apprentissage dont on a parlé tout de suite, c'est-à-dire en dehors des lieux formels d'éducation, donc de la salle de classe. Pour autant, dans la santé, il s'agit bien aussi d'apprendre à, puisqu'il s'agit d'apprendre, dans le contexte qui nous intéresse sur le paludisme, d'apprendre à prévenir la maladie, d'apprendre également à se soigner en fonction des informations médicales les plus récentes. Et dans ce champ de l'apprentissage à se prévenir la maladie ou à se soigner, la philosophie d'abord, puis la sociologie et l'anthropologie ont depuis longtemps montré qu'il y a une forte dimension disciplinaire, c'est-à-dire que dans l'incorporation des comportements de santé, les corps et les esprits sont d'une certaine façon dressés, éduqués, mais que dans ces parcours, dans ces processus, pardon, dans cette incorporation des comportements, se développent aussi des logiques de négociation, de traduction, d'appropriation. Ces processus, donc, ne sont pas toujours subis. Ils ouvrent également des champs de possibilités, des opportunités politiques, des espaces de subjectivation. Et au fond, pour nous, anthropologues, étudier ces espaces et ces processus, c'est finalement interroger ce que sont nos sociétés contemporaines. Alors, dans le cadre de ce séminaire consacré à la méthode de la recherche en éducation, je propose, moi, de partir de l'evidence-based et de faire de l'evidence-based, au fond, un point d'articulation entre le champ de la santé et celui de l'éducation, dont on a vu qu'ils ne sont finalement pas si distincts du point de vue des logiques qui les sous-tendent. Ce que je propose, ce n'est donc pas de voir comment on peut mobiliser l'evidence-based pour mieux éduquer, mais plutôt de voir ou de discuter quels sont les points aveugles de la mobilisation de l'evidence-based dans le cadre de la lutte contre le paludisme, en reconnaissant que cette lutte comporte une dimension à la fois de prévention et de soins. Alors si vous êtes d'accord, on continue, sinon j'arrête tout de suite. Alors, donc comme il n'y a pas encore des tomates, je continue. Concernant l'evidence-based, vous savez sans doute que c'est à partir des années 90 que cette notion d'evidence-based, et notamment l'evidence-based medicine, s'est développée d'abord en Grande-Bretagne dans le champ médical. Cette notion, d'abord, renvoie au développement d'outils censés faciliter la synthèse et la diffusion de résultats capable de favoriser chez les praticiens de la santé des prises de décision qui seraient plus conformes aux développements les plus récents de la recherche médicale. Peu à peu, cette notion d'evidence-based medicine s'est répandue dans tous les pays et parallèlement, les principes de l'EBM, donc comme on l'appelle, ont été transposés à d'autres niveaux d'organisation et étendus, par exemple, à la gestion des systèmes de santé nationaux et internationaux. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'OMS se revendique aujourd'hui d'une approche en termes d'evidence-based policy. Ce credo, à présent maintes fois proclamé envers l'evidence-based policy, sous-estime, il me semble cependant, certains points aveugles de son usage, comme ses limites. En effet, le circuit qui mène d'une découverte scientifique à la mise en place d'une politique de santé publique est tout sauf un chemin linéaire. On en a parlé un peu déjà dans la précédente présentation. Ce qui semble s'imposer sous le sceau de la preuve scientifique ne l'est pas forcément, d'autant que la tendance à produire un savoir universel a souvent pour corollaire l'hyper-localisation dans le temps et l'espace, pour corollaire un confinement extrême des conditions même de production de ces connaissances qui ont une prétention universelle. Pourquoi ? Parce que produire des connaissances scientifiques suppose un nombre extrêmement important de contingences et que la pratique même des essais dont on parlait tout à l'heure sur l'éducation, ce qui était critiqué, mais aussi en santé sur les RCT, les Randomized Clinical Trials, suppose de gérer le maximum de contingences pour produire un savoir sans biais et donc une réduction de la réalité. Donc la pratique des essais eux-mêmes relève d'une lutte permanente contre l'indésirable, contre l'incontrôlable, et donc relève pour une part de la reconnaissance même de ces contingences. Par ailleurs, les vérités scientifiques qui sous-tendent les politiques, entre guillemets, ne le font qu'à la suite d'un travail qui aboutit en fonction de la capacité du chercheur à transférer son résultat, à le traduire, comme dirait Calon, à le traduire du monde de la recherche à l'espace public. Et c'est l'exemple fameux que vous connaissez sans doute de l'article de Calon sur les coquilles Saint-Jacques à Saint-Brieuc. Et sur la façon dont des chercheurs, à un moment donné, inventent ce problème et le font valoir dans l'espace politique. Donc la capacité de persuasion du chercheur joue un rôle primordial dans la mobilisation d'une découverte dans un projet politique, comme en témoigne récemment l'analyse de l'invention de la circoncision comme un moyen de prévention de la transmission du VIH. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, sur le continent africain, la circoncision est présentée comme la magic bullet pour stopper la transmission du sida, la circoncision des hommes, parce qu'il a été prouvé en conditions de laboratoire que ça a réduit 60% le taux de transmission, la transmissibilité. Et donc, dans un contexte de prévalence importante, ça peut effectivement, enfin, sur le papier, ça peut réduire la transmission. Il y a beaucoup de questions qui ont posées par cette nouvelle implémentation de politique, mais celles-ci ont été complètement oblitérées et l'action de quelques chercheurs politiquement bien introduits à l'OMS ont fait en sorte que c'est devenu une politique evidence-based mondiale, alors qu'elle est objectivement encore largement questionnée. Donc, pour continuer sur les questions que pose l'evidence-based, on peut rappeler également que les chercheurs sont aussi porteurs de valeurs qui sous-tendent leurs questions de recherche ou leurs actions, de même que les acteurs politiques. Il n'y a pas des politiques et des chercheurs, un chercheur qui serait pur et un politique et un projet politique. Tous les acteurs aussi construisent leur questionnement et leur façon de regarder le monde en fonction de valeurs. Et ces dernières, bien sûr, peuvent prendre le pas sur une logique d'action uniquement, qui serait uniquement fondée, mais là vous comprenez déjà que quand je vais utiliser le terme, j'y crois pas complètement, une logique d'action uniquement fondée sur un savoir scientifique. Enfin, si au niveau central, des décisions politiques peuvent invoquer, et elles le font souvent, une avancée scientifique pour justifier une modification de politique, l'écho de la rationalité de ces modifications, elle s'avère bien souvent limitée sur le terrain. En fait, comme le rappelle Black, la recherche, les résultats de recherche basés sur l'évidence sont plus facilement mobilisables au niveau central des politiques qu'au niveau local, où ceux qui font les politiques au niveau local sont, et ceux qui les rendent opérationnels, en fait, sont exposés à beaucoup plus de logiques de négociation et d'incertitude que ceux qui, au niveau central, vont mettre en place une politique. Et déjà, du point de vue de l'éducation, on voit bien, l'expérience qu'on nous présente tout de suite là, relevante de ce point de vue-là. Dans le domaine de la santé, ceux qui rendent opérationnels les politiques sont eux-mêmes très largement peu informés des logiques qui président aux modifications des protocoles de lutte ou de prise en charge. Ils n'ont en général qu'une connaissance vague des plans de lutte quadriennaux qui sous-tendent les politiques. Au Sénégal, en Casamance, tous les 4 ans, il y a le PNLP, le Plan national de lutte contre le paludisme, propose un nouveau plan quadriennal. Et depuis 8 ans, ces quadriennaux revendiquent une approche evidence-based. Et la logique de ces plans de quadriennaux est très souvent inconnus des acteurs qui mettent en place ces politiques. Quand ils le sont, quand les acteurs connaissent ces plans quadriennaux et connaissent le contenu de ces plans quadriennaux, néanmoins, leur expérience reste bien souvent une source de connaissances privilégiée. Donc, comme le rappellent Laurent et les autres auteurs de l'article de 2009, pour la bibliographie, si vous voulez, je la mettrai en ligne après la présentation, un important travail méthodologique est à réaliser pour se réapproprier les instruments de la boîte à outils evidence-based, pour les tester dans le champ des politiques de développement, en mesurer les avantages et les limites et formaliser les choix conceptuels qui sous-tendent la construction des différents types d'outils et de métaconnaissances et partager cette réflexion entre chercheurs, étudiants et acteurs concernés. Laurent et les autres discutent de cette question de l'evidence-based dans le cadre des politiques de développement dans le tiers-monde. Eh bien, c'est à cette réflexion que je souhaite contribuer dans cette présentation. Dans un premier temps, je vais vous rappeler, mais de façon très succincte, parce que je ne veux pas vous assommer avec un historique profond de l'histoire du paludisme, des évolutions, je vais le rappeler très brièvement. mais c'est important de le faire pour comprendre la suite. Et ensuite, à partir, et je ne vous parlerai pas non plus de la tension entre dimension scientifique et politique et de la façon dont un résultat scientifique va être mobilisé par le politique à une autre fin. Et c'est le cas notamment de l'usage des moustiquaires dont on a parlé tout à l'heure, où en Casamance, la distribution des moustiquaires, des milda, des moustiquaires imprégnés, au nom, qui est un des outils qui relève de la politique evidence-based de lutte aujourd'hui contre le paludisme, en fait, les acteurs qui mettent en place ces outils-là se réapproprient les outils dans une logique qui est largement clientéliste et politique. Je ne reviendrai pas dessus. Je vais m'intéresser à un autre aspect qui rejoint un peu les questions posées dans la réflexion précédente. Ce que je veux faire, c'est voir en quoi... des arguments et des pratiques qui relèvent en fait de temporalités distinctes de la lutte contre le paludisme, c'est-à-dire qui renvoient à des logiques spécifiques qui vont du contrôle du paludisme et du soin jusqu'à son éradication, qui en fait témoignent de l'évolution de l'histoire du savoir sur le paludisme et des programmes de lutte contre le paludisme. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, à partir du travail des acteurs, comment ces différentes dimensions se trouvent mêlées dans la façon dont les acteurs au quotidien font sens de la lutte contre la maladie et la mettre en œuvre au présent. À travers cette réflexion, qui va concerner aussi bien les acteurs politiques et du soin que les patients, ce qui m'intéresse, c'est de montrer les limites d'une evidence-based policy insensible à l'histoire et aux politiques. Alors, je vais faire quelque chose, il y a quelques anthropologues dans la salle, je vais faire quelque chose... Je me ferais taper dessus s'il y avait beaucoup d'anthropologues dans la salle. Je vais passer très vite sur la méthode. Juste vous rappeler que ce travail repose sur une enquête menée depuis 3 ans dans un district sanitaire où il s'agit d'étudier la mise en place d'une politique de santé publique dans un contexte politique extrêmement particulier, puisqu'il s'agit de la Casamance, où l'État est finalement très absent, et où l'action de santé publique, comme du reste l'action d'éducation, qui est supposée être une activité, une prérogative de l'État, finalement est confiée à des acteurs intermédiaires que sont les ONG, et l'État est très peu présent, fait très peu de supervision, en raison d'un contexte depuis 20 ans de rébellion latente et de conflits armés dans cette région-là, qui fait que les acteurs de l'État, les représentants de l'État, sont très peu présents. Et donc on a travaillé avec les acteurs politiques locaux et dans les centres de santé en essayant d'étudier au fond quels sont les relais et comment se passe la mise en application d'une politique définie au niveau national par le plan national de lutte contre le paludisme. Donc, je passe, et ça a supposé des observations, des entretiens à plusieurs reprises. Un petit point d'information, vous savez sans doute que le paludisme, et je commence donc l'histoire du développement du savoir sur le paludisme, vous savez sans doute que c'est à la fin du 19e que les progrès de la science ont commencé à laisser entrevoir la possibilité de lutter efficacement contre le paludisme, puisque en 1820, on découvre les bienfaits de la quinine. Qu'en 1880, on découvre le plasmodium et en 98, son vecteur. Ça veut dire qu'à partir de la fin du 19e, on a en gros le savoir de base pour soigner efficacement le paludisme. Pourtant, en Afrique, ça n'est qu'à partir de la Première Guerre mondiale et à la suite de l'épidémie de grippe espagnole de 1918, vous savez, cette grande épidémie qui mondialement a tué des millions de personnes. Ça n'est qu'à partir de 1918 que, dans les colonies, on se pose la question vraiment... il y a une prise de conscience de l'important déclin de la population dans les colonies, avec la nécessité qui se fait jour de soigner ces gens-là. Avant, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, en Afrique, on soigne les colons. Mais on ne soigne pas, on soigne les colons contre le paludisme, on ne soigne pas les populations africaines. On ne soigne pas la population africaine. Pourquoi ? Alors, je suis obligé d'aller très vite. Très, très vite. En fait, on peut identifier plusieurs temps dans cette lutte. Et pour expliquer pourquoi on ne les soigne pas, parce que dans un premier temps, durant la période coloniale avant 1918, la lutte contre le paludisme reflète en fait une politique de distinction et de ségrégation. On considère à l'époque que le corps africain et le corps européen sont incomparables et que le corps africain est caractérisé par une commensalité, c'est-à-dire avec le vecteur du paludisme. L'Africain sauvage peut vivre avec le parasite et n'en souffre pas, alors que le blanc civilisé a besoin d'être protégé. Cette logique de distinction, elle repose en fait sur les premières connaissances sur la trypanosomiase, où les chercheurs avaient constaté que les animaux sauvages étaient porteurs de la trypanosomiase et que les élevages domestiques d'animaux, de bovins, étaient contaminés par les animaux sauvages. Et la réponse à ce problème-là, ça a été en fait de développer une séparation très stricte entre élevage domestique et animaux sauvages. Et bien, cette même logique de séparation a présidé dans un premier temps à la constitution du monde colonial et à la ségrégation. Pour ceux qui connaissent l'Afrique, toutes les grandes capitales africaines ont un quartier qui s'appelle le Plateau. Et le plateau, en fait, à Dakar, à Abidjan, c'est ces quartiers-là qui étaient dans lesquels les colons étaient supposés habiter. Et la ségrégation garantissait la non-transmissibilité du gène et s'accompagnait d'une protection des populations blanches. Alors, à cette incomparabilité des corps africains et européens va se substituer l'idée d'une transformation possible du premier. Et c'est très intéressant de voir comment les logiques de développement vont prendre acte du fait que pardon d'utiliser ces catégories grossières, mais c'est des constructions sociales, je n'adhère pas à ces catégories, mais le noir sauvage, dans des processus de civilisation, s'approchant de la ville, va du coup perdre son immunité contre le paludisme et donc nécessiter la mise en place de politiques de lutte contre ces populations-là. Et qu'est-ce qu'on voit se développer dans l'entre-deux-guerres en Afrique, dans l'entre-deux-guerres et jusque dans les années 60, c'est l'apparition de fronts pionniers de lutte contre le paludisme dans des zones de développement. On voit ça au Sénégal, on voit ça dans les plantations de thé dans les zones au Kenya où on plante du thé, on voit ça au Burkina dans la zone des Cascades qui est une zone de front pionnier agricole. La Casamance fait partie d'un de ces sites-là où on va mettre en place une lutte contre le paludisme pour ces populations. Mais là, finalement, la lutte contre le paludisme appliquée aux populations africaines devient finalement un témoignage d'un processus de civilisation en cours. Le paludisme devenant un marqueur d'une forme de civilisation. La sensibilité des individus africains au paludisme nouvellement reconnu va apparaître dès lors comme un marqueur d'un processus de civilisation en cours, mais également comme un frein au développement, et va donc susciter le développement de nouvelles politiques sanitaires. Depuis lors, on est passé d'un projet d'éradication totale qui a marqué en fait le début des indépendances dans les années 60 jusqu'en 69. Au Sénégal, on abandonne en 69 le projet d'éradiquer totalement le paludisme. Et je passe très vite sur l'engagement, sur le rôle extrêmement important de l'OMS qui fait du paludisme une maladie phare à traiter et qui va consacrer des sommes extrêmement importantes dans la lutte, l'éradication totale du paludisme en associant l'usage du DTT et la nivacinisation massive, qui consacre le moment du développement des indépendances africaines et un projet de développement extrêmement marqué. On passe donc de cette politique quasi-militaire de lutte contre le paludisme, basée sur une confiance totale dans les produits, le DTT et la nivacine, à une reconnaissance des limites de ce projet et à une approche pragmatique consistant finalement à vivre avec le paludisme. L'introduction des nouvelles molécules récentes apporte aujourd'hui une réponse au développement des résistances et s'accompagne du développement d'une nouvelle pratique de diagnostic. Et je pense, peut-être vous avez entendu parler des ACT, donc des combinaisons d'artémisine et les TDR, les tests de diagnostic rapide. On était dans une période jusque dans les années 90 qui reposait sur une nivacinisation massive, ce qu'on a appelé la chloroquinisation, où tous les cas de fièvre étaient systématiquement traités comme du paludisme, sans test préalable. Ça a produit des résistances extrêmement fortes à la nivacine. Aujourd'hui, on a produit de nouvelles molécules. Et pour protéger ces molécules, on fait ce qu'on appelle un TDR, un test de diagnostic rapide sur bandelette, qui permet de s'assurer, avant de proposer les nouvelles molécules, qu'on est vraiment en face d'un palu, et à ce moment-là, de donner une molécule en sachant qu'elle sera protégée contre les processus de résistance, puisqu'on l'utilisera à bon escient. Alors, l'introduction de ces nouvelles molécules, comme je vous le disais, introduit une réponse au développement de résistance thérapeutique, s'accompagne de nouvelles pratiques de diagnostic. Et le constat aujourd'hui d'une transition épidémiologique, c'est-à-dire d'une réduction de la présence du paludisme, permet aux politiques de caresser l'espoir d'une éradication totale qu'on avait abandonnée depuis la fin des années 60. La disparition du paludisme reste encore un marqueur du développement du pays, comme en témoigne par exemple le dernier slogan du plan national de lutte contre le paludisme au Sénégal, qui est « Un Sénégal émergent sans paludisme ». L'absence de paludisme apparaît là encore comme à la fois le résultat et la condition d'un état de développement. Alors, cette histoire m'est vraiment brossée extrêmement rapidement, mais on va revenir en détail au moment d'entrer dans une discussion un peu de données empiriques. Cette histoire brossée rapidement du paludisme, à partir de celle-ci, ce que j'aimerais faire, c'est voir comment les acteurs de la santé, responsables régionaux de programmes ou acteurs de la santé sur le terrain, c'est-à-dire soignants, mais aussi responsables d'IEC, d'éducation communautaire, comment ceux qui sont engagés quotidiennement dans la réalisation des programmes de lutte, soit parce qu'ils organisent des séances d'information et d'éducation, soit parce qu'ils traitent les accès palustres ou distribuent des moustiquaires, comment ces acteurs perçoivent cette histoire et l'évolution de ces politiques, et comment ils pensent l'articulation de leur activité professionnelle avec l'évolution de ces programmes. Et j'ai l'impression qu'en posant cette question-là, je rejoins une partie des questions qui intéressent mon prédécesseur. Et ce que je propose de faire, en fait, c'est de rechercher dans les pratiques actuelles les différentes strates de la lutte contre le paludisme, en partant du principe qu'en fait, cette longue durée de la lutte contre le paludisme a produit des formes de sédimentation des savoirs qui sont réarticulées d'une manière complètement originale par les acteurs et qui, du coup, sont en décalage avec les logiques systémiques et scientifiques des programmes de lutte. Il faut reconnaître que du point de vue des deux derniers programmes, donc depuis 8 ans, les deux derniers programmes de lutte contre le paludisme au Sénégal reposent sur une reconnaissance liée à une qualification épidémiologique du Sénégal en fonction de 4 strates. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas au Sénégal en face d'une épidémie ou d'une situation épidémiologique de paludisme uniforme. On a différentes strates qui justifient pour le plan national de lutte contre le paludisme, qui justifie la mise en place d'offres thérapeutiques un peu différentes et le développement de politiques un peu différentes. Ce qui est surprenant dans ce cadre-là, c'est que si les plans nationaux de lutte contre le paludisme reconnaissent la variabilité des profils épidémiques et donc des strates épidémiologiques différentes, ces mêmes plans ne reconnaissent pas du tout l'impact et la dépendance, finalement, de la lutte contre le paludisme vis-à-vis des facteurs socio-économiques ou des contextes politiques tout à fait spécifiques des différentes régions du Sénégal et qui sont liés et qui ont des conséquences sur l'organisation des structures de santé, sur la formation des personnels et ainsi de suite. En outre, la longue durée de la lutte contre le paludisme que j'ai brossée à grands traits et la multiplicité des messages diffusés comme des politiques mises en place par les politiques et leur traduction sur le terrain invite à vraiment se poser la question de la lecture faite par ces politiques, de ces politiques par les soignants et par les populations. Donc plutôt que de partir d'un principe qui consisterait à évaluer leur capacité à comprendre ces messages, en raison, et souvent, quand on pose ces questions-là, on met en opposition la capacité à comprendre avec l'existence de freins culturels chez les acteurs qui les empêcheraient de vraiment saisir et de mettre en place ces messages. Il convient plutôt, il me semble, de se poser la question de la possibilité même d'une compréhension de ces différents messages, tant ceux-ci se sont succédés rapidement et sans cohérence apparente du point de vue des personnes concernées, qu'ils soient patients, acteurs de santé, aux premiers échelons des soins. Comme l'écrit Marc-Éric Gruenet à propos du paludisme, les découvertes scientifiques, les recommandations internationales et le pragmatisme également imposé par le niveau de développement et de performance des systèmes de santé nationaux et locaux sont en fait trois registres qui ressortissent à des dynamiques distinctes et qui viennent informer les décisions et qui s'adressent en bout de chaîne à des personnels de santé qui prescrivent et qui, par leurs actes, ou d'une manière, si vous voulez, qu'on pourrait désigner comme incorporée, par leurs actes, doivent faire la synthèse de toutes ces informations qu'ils ont ensuite à confronter avec leur propre expérience professionnelle. Donc, le propos ici, c'est de reconnaître que la longue durée des politiques de santé, la succession des plans quadriennaux, fondés sur l'avancée des connaissances scientifiques, autant en termes de traitement que d'une meilleure appréhension épidémiologique de la réalité, se confondent finalement dans l'esprit des agents de santé comme des populations. On n'observe pas de césure radicale entre des pratiques d'aujourd'hui et les pratiques du passé, mais plutôt une sédimentation que l'on peut observer à la fois dans les discours verbalisés, mais aussi dans les pratiques des acteurs. En outre, face à la succession des modifications de protocoles et de politiques, et au peu de visibilité des logiques qui sous-tendent ces protocoles, l'expérience des acteurs apparaît finalement une valeur sûre à laquelle s'accrocher pour favoriser, cela finalement favorise de la résistance au changement. On retrouve ici en fait le phénomène décrit au XXe siècle par Marx, qui raconte l'histoire de l'émergence des RCT, donc des Randomized Clinical Trials, et qui rapporte que les médecins mettaient à l'époque, contre les lobbies qui voulaient mettre en place, les RCT, qui rapportent que les médecins mettaient en avant leur expérience et la connaissance qu'ils avaient de leurs patients pour résister à la mise en place de ce qui allait devenir les essais cliniques randomisés comme gold standard de l'administration de la preuve d'une thérapie. Alors, ce que je propose à partir des cas empiriques que je vais finalement décrire quand même, c'est de penser la lutte contre le paludisme comme une continuité. Alors que le programme actuel de lutte contre le paludisme vise aujourd'hui l'éradication de la maladie, conforté en cela par l'observation d'une transition épidémiologique en cours, l'action des acteurs engagés au quotidien dans la lutte contre le paludisme s'inscrit, lui, dans la longue durée. La permanence de la lutte est confortée parce qu'on pourrait désigner par l'expression triviale d'un air de famille des moyens mis en avant dans les programmes successifs. Ces différents moyens mis en avant sont les médicaments, la nivaquine ou les ACT, qui finalement dans l'esprit des gens se confondent, ça reste une pilule à donner. La moustiquaire qui à période régulière revient comme un des instruments de la lutte, mais sous-tendu par une logique différente. Oui, c'est bon. L'aspersion intradomiciliaire, qui a été un des outils importants de la lutte pendant les portes coloniales de l'éradication totale, où on allait dans les domiciles et on aspergeait de manière manu militari l'intérieur des domiciles. Cette lutte, cette logique revient aujourd'hui en force au Sénégal. Ces différents outils sont remis au goût du jour, quand bien même les programmes qui mobilisent ces outils reposent sur une appréciation différente de l'épidémie et visent des objectifs distincts. En témoigne la façon dont les acteurs expriment la nature de leur mission. Par exemple, lors d'un entretien avec la directrice de l'IEC de la région médicale de Ziguinchor, celle-ci présente la nature des messages dont elle est chargée d'organiser la diffusion. Et elle rappelait par exemple l'importance de la moustiquaire et pour appuyer son propos, nous rappelle un slogan qui caractérisait en fait le programme de lutte du Sénégal en 2005 qui expliquait « Vivre avec le palu sans en mourir ». C'était ça le slogan. Sauf que ce slogan qu'elle mobilise pour justifier son action au présent est un slogan qui date de près de 10 ans et qui sous-tendait un programme dont l'objectif était très très différent de celui qu'elle est chargée de promouvoir aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui le programme actuel vise non pas de vivre avec le palu, mais vise l'éradication, en professant un Sénégal émergent sans le paludisme. La persistance dans le discours de la directrice de l'IEC d'un slogan associé à un programme précédent se comprend tout à fait au regard de son engagement depuis dans la longue durée dans le domaine, mais cette présence souligne pour nous, et c'est ça qui nous intéresse, le fait que les directives des nouveaux programmes ne rencontrent pas un terrain vierge mais viennent en fait recouvrir un ensemble de savoirs et de pratiques issus de programmes et d'expériences précédents. Ces connaissances et ces usages constituent en fait un assemblage à partir duquel les acteurs pensent et construisent leur action. Ce qu'on peut qualifier comme un chevauchement des mémoires est ainsi perceptible dans les pratiques de certains agents qui conservent dans leur pharmacie de leur case de santé, donc dans les régions les plus reculées du Sénégal, des produits qui ne font plus partie de l'offre médicamenteuse officielle. On a par exemple observé dans une case, et ça me faisait penser à vos manuels, les manuels dont vous parliez tout à l'heure. Nous avons ainsi observé dans une case de santé aux confins du district sanitaire d'Oussouille la présence d'artesunate amodiaquine, alors que le coartem est officiellement retenu depuis 4 mois au moment où nous faisons notre enquête. La coprésence de divers protocoles thérapeutiques renvoyant à différents paradigmes de lutte est également accentuée par le manque de supervision effective ou bien par l'organisation au sein de centres de santé du district. C'est le cas de Mlomp et de Diembereng, d'un essai clinique qui professe l'evidence-based medicine, mais qui travaille sur l'artesunate amodiaquine, c'est-à-dire qui réintroduit, au nom d'une recherche evidence-based, dans un programme national fondé lui-même sur l'evidence-based, basé sur une molécule, qui introduit une deuxième molécule, au vu et au su de l'ensemble de l'équipe politique, mais à l'insu des populations, une molécule qui est en contradiction avec l'evidence-based. Donc on voit des entrechoquements d'evidence-based, et donc une multiplicité de registres et de facteurs qui sont évidemment problématiques à la cohérence de la politique de santé publique. Les affiches également, c'est très intéressant, je pense que vous pourriez sans doute, il y aura un travail à faire dans les écoles là-dessus, les affiches présentes dans les centres de santé ou dans les locaux de la région médicale rappellent eux aussi la succession des programmes. Les slogans, puisque chaque programme diffuse une affiche avec un slogan, un protocole de prise en charge associé, et parfois une affiche récente en masque une plus ancienne qui n'apparaît qu'à la faveur d'un coup de vent, il y a une mauvaise punaise, et on voit en fait ce que nous on observe comme une succession et une sédimentation des programmes, concrètement se traduit dans les centres de santé par la succession d'affiches, et certaines, les anciennes ne sont pas enlevées, la nouvelle est mise à côté, et on ne se rend pas bien, on a du mal même à définir à quelle affiche se réfèrent les acteurs quand il s'agit de retrouver quel est le bon protocole. De fait, on a observé des confusions dans les protocoles liées à la succession d'affiches qui ne sont jamais véritablement enlevées les unes après les autres. Ces affiches, en fait, il faut reconnaître que ces affiches signalent bien souvent plus qu'elles n'informent réellement. Leur affichage réglementaire est respecté, mais au fond, ces affiches restent peu mobilisées en tant que producteurs d'informations. Elles sont aussi la trace donc, de l'enchaînement rapide des différents protocoles thérapeutiques, comme de leur coprésence dans le système de santé. Cette succession de recommandations rend difficile leur appropriation précise par les politiques, par les populations, mais également par les agents de santé qui sont situés à la base de la pyramide de soins. Il est difficile de recueillir auprès de ces derniers, ces agents de santé, un historique précis de l'évolution de l'offre de soins, de l'offre de produits antipaludéens. Les noms des médicaments, en fait, sont très peu connus. Si les agents connaissent les ACT, c'est-à-dire donc ces combinaisons de molécules, leur évolution et la logique du changement de produit, notamment par exemple au Sénégal, le passage du coartem de la modiaquine au coartem, ne sont que peu maîtrisés. D'ailleurs, cette évolution n'a fait. Si l'introduction des ACT en tant que telle ont fait l'objet d'une campagne de communication importante, le changement d'une molécule à une autre n'a pas fait l'objet d'une véritable communication, si ce n'est d'une information lors d'une réunion à l'échelle du district. À l'assemblage des slogans et des pratiques de la part des agents de santé répondent les savoirs idiosyncrasiques des populations. Ainsi, cette femme interrogée à Mlomp produit un discours dans lequel elle propose une lecture de l'évolution des protocoles de prise en charge à partir de son expérience personnelle, et celle-ci témoigne du maintien, quoique transformé, de pratiques autrefois recommandées dans la lutte contre le paludisme. Cette femme avec laquelle nous échangeons était enquêtrice temporaire à Mlomp dans le cadre d'un observatoire populationnel et habitait auparavant dans la capitale régionale de Ziguinchor, où elle était salariée. Elle revient vivre à Mlomp pour s'occuper de son père qui était mourant, et elle rapporte que lorsqu'elle habitait encore à Ziguinchor, elle donnait systématiquement de la chloroquine à ses enfants en début de saison des pluies, ce qui renvoie la politique de chloroquinisation massive, qui est devenue maintenant un savoir populaire que les femmes, que toutes les mamans se transmettent de manière automatique. Ça fait partie des bonnes pratiques d'une bonne mère. Dès qu'il y a la pluie, c'est le palu, si elle palue, on chloroquinise. cette pratique renvoie en fait donc aux campagnes coercitives menées dans les années 70 et 80 concernant la chloréalkylisation. Et par exemple, dans ce même village de Mlompe, un rapport de 75 écrit par des démographes de l'INED, puisque c'était un observatoire de l'INED, rapporte, je cite, rapporte donc les pratiques des infirmières dans ce centre de santé. Vous allez voir de l'éducation comme on n'en fait plus chez nous. Face à la fréquence des consultations de nuit pour paludisme et afin d'obliger les familles à détenir de la chloroquine à domicile, toute consultation pour un syndrome fébrile était refusée si l'enfant n'avait pas reçu auparavant à domicile un traitement présomptif par chloroquine ou si ses parents refusaient l'achat immédiat d'une provision conséquente de ce produit. D'après le récit des infirmières, la « entre guillemets guerre de la chloroquine » fut particulièrement difficile et éprouvante, parents systématiquement refoulés s'ils se présentaient au dispensaire sans l'argent nécessaire à l'achat de chloroquine, enfants traités clandestinement, tension avec une partie des villageois. Au bout d'une année environ, la possession de chloroquine à domicile était généralisée et les consultations de nuit beaucoup moins fréquentes. C'est un rapport de 75. Donc on comprend bien comment aujourd'hui la chloroquinisation en temps de fièvre est devenue une évidence pour les mères. Aujourd'hui, sans revenu, cette femme avec qui nous échangeons explique avoir cessé la chloroquinisation faute de moyens, pas par reconnaissance de la nouveauté du protocole. Elle donne cependant à ses enfants du paracétamol et de l'efferalgan pour ce qui lui semble être un cas de paludisme, car comme elle l'explique, le paludisme est souvent pris pour de la fatigue. Et le traitement présomptif de cas de fièvre, officiellement abandonné depuis 2006, sous-tend en fait cette pratique abandonnée par cette mère faute de moyens. Pour autant, les nouveaux protocoles ne sont pas complètement ignorés. Et l'introduction des TDR permettant d'éviter le surdiagnostic du paludisme conforte finalement ce qu'elle savait déjà. Ce qu'on appelle bien paludisme n'est bien souvent qu'une simple fièvre. Et cela justifie finalement son utilisation d'antipyrétiques plutôt que d'emmener son enfant au dispensaire. Ce que cette mère ne sait pas, c'est qu'avec, dans le cas des OMD, objectif du millénaire, on cible aujourd'hui l'enfant de 0 à 5 ans et la mère, si bien qu'on est en fait de transformer l'épidémie du paludisme et que les enfants non exposés de 0 à 5 ans vont avoir leur première crise de paludisme après 5 ans et risquent là un accès palustre extrêmement grave puisqu'ils n'ont plus de résistance. Et donc ces mères qui sont dans cette logique de « c'est pas un palu », elles risquent en fait de voir une recrudescence de la mort de leur enfant après 5 ans à cause d'un retard de consultation. Ça, c'est ma parenthèse. Si l'on observe les pratiques des professionnels de santé et que l'on prête attention à la façon dont ils les pensent ou si l'on s'intéresse à la façon dont les individus se soignent ou pensent leurs soins, discours et pratiques, finalement, rendent compte de l'enchevêtrement de différentes strates, de différentes couches de politique. C'est ce dont témoignent, comme je vous le disais, les slogans, les différentes rationalités ou les pratiques désarticulées de leurs paradigmes scientifiques initiaux. Sortis de leur environnement primaire de cohérence, ils trouvent cependant une cohérence renouvelée en s'assemblant aux idiosyncrasies locales comme aux réalités économiques et politiques. On n'est pas dans le cadre de pratiques totalement irrationnelles, on est dans des pratiques qui sont totalement en cohérence avec différentes sources d'informations sédimentées et dont les gens, par leurs pratiques, organisent et assemblent. Dès le plan stratégique de 2001-2005, la diversité du profil épidémiologique du Sénégal était reconnue, je vous le disais. Et ce plan du PNLP de 2001 rappelait l'intérêt d'une coopération avec les scientifiques. Ce n'est cependant qu'en 2006-2010, dans le second plan, que la nécessité de proposer des politiques fondées sur des recherches opérationnelles a vraiment été soulignée. Quand je parle de recherche opérationnelle, je parle de recherche RCT en population générale visant s'intéressant à l'efficacité des molécules. Comme on l'a vu, cette posture se traduit dans le plan actuel de lutte par des actions ciblées en fonction de profils identifiés, des actions thérapeutiques. Pour autant, le contexte politique particulier de chaque région ne fait cependant pas l'objet d'une réflexion ou d'une action spécifique. La longue durée des politiques de lutte et la sédimentation des pratiques et des messages ne sont pas du tout pris en compte dans le cadre de la mise en place de ces programmes. Et donc je vais terminer par un point qui consiste à une question autour de donner du sens aux politiques de santé. La longue durée de la lutte contre le paludisme se caractérise par l'introduction, on l'a vu, à un rythme soutenu, de nouveaux programmes de lutte contre le paludisme et par la modification fréquente des protocoles, de même que par une communication sur l'évolution des connaissances entomologiques, par une absence de communication sur l'évolution des connaissances entomologiques, épidémiologiques et thérapeutiques qui justifient ces nouveaux protocoles. Dans ce contexte, il n'est donc pas étonnant que les recommandations basées sur l'évidence médicale, l'evidence-based medicine ou l'evidence-based policy, rencontrent des réticences du côté des professionnels de santé. N'est-ce pas ? Ces derniers opposent à une évidence médicale jamais définitive, finalement, leur propre expérience fondée sur un savoir acquis auprès de longues années d'exercice. Ces politiques ne s'appliquent donc pas sur un terrain vierge. Les recommandations d'aujourd'hui font écho en effet à des politiques précédentes. C'est le cas par exemple pour l'aspersion, je vous l'ai dit, l'aspersion intradomiciliaire, ou la mobilisation des communautés dans la lutte. Mais pourtant, si ces recommandations ont encore une fois un air de famille avec d'autres, elles sont inscrites dans un autre paradigme de lutte. La mémoire des professionnels, les savoirs idiosyncrasiques des populations, la succession des programmes de lutte fondés sur des paradigmes scientifiques différents se rencontrent et forment la réalité cognitive dans laquelle finalement s'inscrit la lutte concrètement. Oubliez cela, c'est ne tenir compte ni de l'histoire des politiques de santé, ni des contextes politiques dans lesquels elles sont déployées. En fait, tout fonctionne comme si le fait d'avoir conçu des mesures d'intervention à partir de relations théoriques de causalité était considéré comme suffisant pour garantir l'effet de ces mesures. Ces constats et les débats qui les accompagnent invitent en fait au renouvellement des approches de l'évaluation pour évaluer l'impact effectif de l'intervention publique indépendamment des schémas de causalité qui la sous-tendent. Le PNLP, le Plan national de lutte contre le paludisme, en identifiant 4 strates dans le profil épidémiologique du paludisme au Sénégal, reconnaît le problème que pose l'application d'une politique de lutte uniforme à des régions qui ont de l'épidémie une expérience singulière. L'application d'une politique basée sur le contexte nécessite également d'aller plus loin dans la reconnaissance de la spécificité des territoires et d'en saisir l'expérience non plus comme une situation épidémiologique, mais comme une réalité historique et politique. Ce faisant, on évite le raccourcissement de l'histoire propre à l'écriture de l'histoire des politiques de santé par le haut. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais il y a une histoire du paludisme qui en fait est calquée sur l'histoire des découvertes scientifiques. Et on reconnaît alors la dimension symbolique de la lutte et ses enjeux politiques. Il ne s'agit pas là d'annuler ces dimensions, mais en les reconnaissant, de penser également la nécessaire domestication des politiques par les populations, reconnaître également l'intérêt de l'explication continue des actions et l'importance de l'accompagnement des personnels de santé sur le terrain plutôt que la réalisation d'une supervision formelle. J'espère que ces propos permettront d'alimenter votre réflexion sur la mise en place de l'evidence-based policy dans le domaine de l'éducation dans les classes. Et je vous remercie pour votre attention.